Et on va revenir sur ce qui a fait la une de l'actualité géopolitique mondiale avec la déclaration d'Emmanuel Macron qui se dit prêt à reconnaître l'État de Palestine. Ce sera au mois de septembre prochain. Alors, retour sur ces déclarations tonitruantes avec Daniel Habert qui analyse tout cela et il analyse surtout les conséquences que cela pourrait avoir. Voici Daniel Habert, il est au micro comme chaque semaine de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les lundis matins, sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Alors, dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, c'était jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. Ce sera en septembre à l'ONU. Daniel, c'est un peu une bombe qu'a lâchée le président français. Quelle est votre analyse géopolitique de la situation ?
Alors c'est une bombe qui a déchaîné évidemment un certain nombre de réactions plus ou moins passionnées. Je voudrais pas ajouter des commentaires, je voudrais simplement commencer par commenter les commentaires. Je les regroupe en quatre catégories. Il y a d'abord cette vague d'indignation qui vient des juifs individuels ou par leurs organisations. Une indignation, mais pas une surprise parce que c'était annoncé depuis très longtemps et on connaît la position de la France hein, en général et j'y reviendrai. Donc cette indignation, malheureusement, l'indignation n'apporte pas beaucoup de solutions au problème. Le deuxième grand groupe de réactions, ça a été les applaudissements. Et si on fait la somme des applaudissements, on voit qu'ils viennent tous du même bord, c'est-à-dire les islamistes, les plus radicaux, les plus forcenés, et évidemment en Europe, les partis d'extrême gauche qui ont partilié avec les islamistes radicaux, et puis pour couronner le tout, les applaudissements du Hamas lui-même. Donc si j'étais Macron, je me dirais, tiens, mes supports sont d'une étrange nature, hein, ça devrait quand même l'interroger. Mais bon, on sait qu'il s'interroge pas beaucoup. La troisième groupe de commentaires sont les analystes un peu sérieux, qu'ils soient pour ou contre. Ils essayent de montrer au fond deux choses. Ils essayent d'expliquer pourquoi Macron a fait ça et est-ce que ça a une chance d'être efficace. Et donc ça, c'est les deux questions qu'on peut se poser. J'ajouterai une quatrième catégorie en elle-même, une seule. C'est la déclaration écrite de l'ambassadeur d'Israël en France, qui est un francophone, qui s'appelle Yoshua Zarka, qui est un homme brillant, mais modéré, équilibré, et qui a fait une longue déclaration où il explique bien les choses. Et je recommande à tout le monde sur YouTube ou ailleurs d'aller lire cette déclaration. Elle est partout, hein, elle est vraie, elle circule dans les réseaux sociaux et elle dit l'essentiel. Donc voilà un petit peu comment on peut classer les commentaires.
Alors Daniel. Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration du président français, surtout un jeudi soir, il était tard dans la soirée.
Bon, le moment, on en reparlera, mais les raisons profondes de cette décision, qui est une décision stratégique et géopolitique, donc qui n'est pas prise comme ça un jeudi soir dans un coin de table. La première motivation, tout le monde le dit, c'est le besoin d'exister d'un président qui, en France même, ne peut plus gouverner puisqu'il n'a pas de majorité et donc il se reporte complètement sur son domaine réservé, qui est l'international. Donc il faut qu'il existe sur le plan international. Il n'y a pas tellement de sujets sur lesquels on peut exister. Il y a l'Ukraine et puis il y a la bagarre commercial avec les Américains et puis il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, donc il fallait qu'il prenne une initiative. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il fait s'inscrit quand même dans une ligne assez traditionnelle de la politique française depuis De Gaulle, qu'on peut appeler une ligne gaullienne, qui a été renforcée sous Mitterrand, et on appelait ça la politique gaulo-mitterrandienne ou mitterrano-gaullienne, et qui en gros de dire on garantit et on soutient l'existence d'Israël, ça c'est toujours un préalable, mais on pense que pour la justice et pour le droit, il faut faire la place au droit des Palestiniens. Alors c'est une position qui d'une certaine manière est abstraite, qui n'a au fond rien apporté de bon à cette politique à la France, mais sur laquelle le Quai d'Orsay et tous les conseillers qui gravitent autour de Macron sont accrochés. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, elle est d'un rejet véritablement haineux du gouvernement de Netanyahou. C'est-à-dire que dans l'esprit de Macron et de son entourage, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et toutes les initiatives qui sont souvent exprimées comme ça dans des journaux par tel ou tel individu sont pris comme des initiatives gouvernementales et qui aboutissent au résultat que pour la France, toute la politique israélienne vise à rendre impossible la solution à deux États. Or, l'analyse que fait Israël, que fait la France depuis toujours, c'est hors de la solution à deux États, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il y a soit la guerre sans fin, soit la solution à deux États. Il n'imagine pas, la France, qu'il existe des solutions intermédiaires. Or, il en existe et on le verra. Donc, il faut tout faire pour soutenir cette perspective d'une solution à deux États. Et il pense que reconnaître l'État, ça sera une contribution. Et puis surtout, je crois que c'est le plus important, la France, elle tente aujourd'hui d'avoir une politique qui est d'ailleurs assez aussi traditionnelle, qui est d'avoir un espace d'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, hein, parce que la France estime être le moteur de l'Europe, par rapport à deux choses. D'abord, par rapport aux Américains. Au fond, il faut éviter d'être dans l'orbite américaine et avec Trump aujourd'hui, cette orbite américaine, c'est une sorte de vassalisation de l'Europe auprès des États-Unis. Donc ça, c'est rejeté par la France et par certains pays d'Europe. Et donc s'opposer aux États-Unis, notamment sur la question du Moyen-Orient, c'est une position stratégique. L'autre, c'est aussi une vieille tradition tiers-mondiste de la France, c'est de se rapprocher de tous ces pays qui sont majoritaires dans le monde, 140 sur 200, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, qui sont tous ces pays émergents, dont une grande partie d'ailleurs sont des pays musulmans, que la France pourrait, au fond, dont la France pourrait être un des leaders. La France prenant donc une sorte de position intermédiaire entre d'une part les États-Unis, d'autre part la puissance chinoise, une espèce d'organisation du tiers-monde autour de la France ou de l'Europe. C'est un vieux rêve qui ne s'est jamais matérialisé, mais que la France continue à porter. Alors, pour définir la motivation de Macron, il faut faire un pot pourri de ces trois directions, selon le goût de chacun.
Oui, Daniel, cette déclaration d'Emmanuel Macron de vouloir reconnaître un État de Palestine, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir, d'être efficace?
Alors l'efficacité voudrait dire qu'elle apporterait des solutions positives à trois questions. D'abord, un équilibre ou une paix au Moyen-Orient. Deuxièmement, une solution à la question palestinienne. Et troisièmement, une solution à la fin de la guerre de Gaza, hein, dans cet ordre-là. Donc la question, c'est est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien nous rapproche d'une solution de ces trois questions? Et la réponse est non. La réponse est non, sauf si. Alors, j'ajouterai un bémol à la fin. Alors, pourquoi c'est non? Ben parce que on voit pas comment la paix peut s'établir au Moyen-Orient si on ne met pas fin à l'ambition iranienne, parce que c'est l'Iran qui est le grand déstabilisateur. Or, l'Iran existe toujours, va continuer à vouloir avoir une bombe nucléaire, et l'Iran va continuer à essayer de maintenir tout ce réseau d'alliés tout autour d'Israël, qui sont tous porteurs de déséquilibre et au centre duquel il y a le Hezbollah et le Hamas. Et donc l'initiative de Macron ne va pas dans le sens d'un apaisement. Au contraire, elle va donner des raisons à l'Iran de continuer dans sa radicalisation et des raisons au Hamas de continuer à ce qu'il fait. Et justement, la question palestinienne n'a aucune chance d'être résolue tant que le Hamas existe. Et donc la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui, où le Hamas continue de gérer Gaza, et où en Judée-Samarie, la majorité de la population soutient le Hamas. S'il y avait des élections demain, le Hamas serait candidat, veut dire que l'initiative aujourd'hui bénit le Hamas et donc empêche toute solution à deux États, parce que je le rappelle, le Hamas ne veut pas une solution à deux États. Il veut la disparition d'Israël. Donc, c'est tout à fait contradictoire avec l'objectif français que de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui où le Hamas est toujours existant. Et justement, à Gaza, tout se joue aujourd'hui sur comment mettre fin au conflit en excluant le Hamas. Or, le Hamas va être évidemment encouragé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a salué la déclaration de Macron, il est encouragé à s'accrocher autant qu'il peut à sa présence à Gaza. La moindre présence, le moindre cessez-le-feu qui ne mettrait pas fin à la reddition, enfin qui ne verrait pas la reddition et le désarmement du Hamas serait une immense victoire pour le Hamas et entraînerait de toute façon la poursuite de la guerre du point de vue d'Israël qui peut pas tolérer ça. Donc pour ces trois raisons, paix au Moyen-Orient, solution à la question palestinienne, solution à la guerre à Gaza, la déclaration macronienne éloigne les possibilités de solution. Sauf si. Alors, c'est quoi le sauf si? Et il faut se rappeler que la première fois où Macron a évoqué cette reconnaissance, il y avait deux considérations qui entouraient sa déclaration. La première, c'est qu'il n'allait pas faire tout seul. C'était à l'occasion d'une conférence avec l'Arabie Saoudite, qui semble-t-il d'ailleurs va avoir lieu. Donc, évidemment, là, la question, c'est que va faire l'Arabie Saoudite? Et puis deuxièmement, il y avait une concomitance entre cette reconnaissance et un certain nombre de conditions que Macron mettait, à savoir la reconnaissance d'Israël justement par les États arabes, donc qui restait par l'Arabie saoudite, deuxièmement le désarmement du Hamas et troisièmement la libération des otages. Or, on n'en entend plus parler. Donc, on est ramené à la question suivante, puisque Macron a annoncé sa décision, mais pour septembre. On a une sorte de porte ouverte à la possibilité que d'ici septembre, un certain nombre de choses se passent. Quoi? Bah, deux choses.
Oui,
La
pour
première,
conclure, Daniel, s'il vous plaît.
oui, ce serait ma conclusion. La première, c'est que l'Arabie saoudite a le temps de s'exprimer. Et on verra si l'Arabie saoudite va concourir à cette reconnaissance de l'État palestinien. Or, on sait que pour l'Arabie saoudite, l'État palestinien, c'est quelque chose qui est très dangereux, surtout s'il est géré par le Hamas, membre des Frères musulmans, qui est l'ennemi juré de la famille des Saouds, qui est vraiment le pire ennemi de l'Arabie saoudite. Donc on voit pas comment l'Arabie saoudite pourrait soutenir la position de Macron. Il peut la faire évoluer dans un sens plutôt favorable. Et la deuxième, c'est voie de sortie, ce serait que d'ici septembre, Israël finisse par vaincre le Hamas, obtienne sa reddition, et donc ça rendrait obsolète l'idée de la reconnaissance. Bon, soit ceci dit, l'espoir est minime. Hein, donc le plus vraisemblable, c'est que la guerre à Gaza va continuer, que Macron va annoncer son annonce et que bah, il se passera rien si l'Arabie saoudite ne le soutient pas. Donc à moins d'une bonne surprise, ce sera ce qu'on appelle un flop diplomatique un de plus.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nos traditionnelles conversations. À lundi prochain.
À lundi prochain.